Monsieur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Madame la Sous-secrétaire générale aux droits de l'homme, Mesdames et Messieurs les orateurs et oratrices, Mesdames et Messieurs les délégués, représentants des peuples autochtones, Mesdames et Messieurs. Alors que nous sommes réunis ici pour évoquer des questions essentielles liées à la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, je me concentrerai quant à moi sur la faille colossale qui existe entre d'une part le droit et la réalité de l'autre. Voilà ce qu'on appelle donc le fossé de mise en œuvre. L'article 38 de la Déclaration des Nations Unies exige, je vous le rappelle, que les États, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, adoptent toutes les mesures nécessaires, y compris législatives, afin de parvenir aux fins de la déclaration. Cet article reprend l'idée essentielle qui devrait nous guider dans nos efforts, à savoir la nécessité de mettre en place des coopérations actives et réelles avec les peuples autochtones à toutes les phases des processus politiques et législatifs. Il exhorte à plus que la création de normes ou à l'adoption de plans. Il exige en effet que les voix autochtones et que les voix des représentants des peuples autochtones se fassent entendre et soient essentielles dans les processus de prise des décisions, de mise en œuvre et d'évaluation des lois et des politiques. L'esprit de l'article 38 est clair. Les droits des peuples autochtones ne peuvent être imposés du haut. Ils doivent être au contraire réalisés par le truchement de partenariats et dans le cadre d'un respect mutuel. Cela étant dit, alors que nous examinons les situations aux quatre coins du monde, nous constatons qu'il y a une disparité persistante et perturbante entre les engagements consacrés dans des documents tels que la déclaration et la réalité vécue au quotidien sur le terrain par les peuples autochtones. C'est au cœur de ce problème de mise en œuvre, une disparité entre les intentions nobles affichées par les États d'une part et ce que vivent véritablement les populations que ces politiques sont supposées protéger. Examinons de manière plus rapprochée et plus fouillée ces lacunes. Tout d'abord, il y a un manque de consultation authentique, bien souvent. Trop fréquemment, les États invitent les peuples autochtones autour de la table, mais leurs commentaires ne sont pas dûment pris en compte ni intégrés dans les décisions finales. Cela étant dit, l'article 38 exige une coopération à égalité. Sans véritable consultation, il y a de fortes chances que les politiques aillent à l'encontre des besoins, priorités et valeurs culturelles des peuples autochtones. Or, tout cela entraîne des résultats inefficaces, voire dommageable. Certains de ces résultats peuvent en outre exposer les peuples autochtones à un risque d'extermination. Deuxièmement, même lorsqu'une législation adéquate est adoptée, le défi de la mise en œuvre est multiple. Les contraintes en termes de ressources, l'inertie bureaucratique, les intérêts politiques divergents donnent souvent lieu à des situations où les lois sont largement symboliques et le demeurent. C'est particulièrement préoccupant dans des domaines comme les droits fonciers, la protection environnementale, la préservation des cultures, où la mise en œuvre tardive ou inadéquate a des conséquences irréversibles. J'en veux pour exemple le fait que dans certains pays, on ait reconnu les droits fonciers des peuples autochtones sur le papier, mais ces droits sont fréquemment sapés par des représentants de l'industrie extractive, des projets d'infrastructure et l'élargissement d'opérations agricoles, souvent dans le cadre d'une impunité criminelle. En outre, le respect de ces droits est bien souvent inefficace. Les peuples autochtones continuent de se trouver confrontés à des pierres d'achoppement significatives lorsqu'ils se tournent vers les tribunaux nationaux ou les mécanismes internationaux. Ces barrières comprennent notamment les coûts, les pratiques discriminatoires et parfois des violences, des intimidations. Troisièmement, nous devons nous pencher sur les inégalités structurelles qui étayent ce fossé en matière de mise en œuvre. Les peuples autochtones, historiquement, ont été soumis à la colonisation, à la discrimination systémique. Ils ont été dépossédés de leurs terres. Et tout cela se manifeste encore aujourd'hui dans les disparités socio-économiques qui les frappent. Et si nous ne nous penchons pas sur les causes profondes, enfin les politiques les mieux intentionnées auront du mal à avoir un effet réel. Nous devons nous pencher sur des questions importantes comme la pauvreté, l'accès à l'éducation, la santé et la représentation politique. Ces facteurs sont étroitement liés à la réalisation fructueuse des droits des peuples autochtones. Alors, que peut-on faire pour combler ce fossé. La première phase, et la plus essentielle, est de repenser le lien entre les États et les peuples autochtones. Il doit s'agir d'un partenariat réel entre les gouvernements et les peuples autochtones. Cela exige que nous ayons, au-delà de la simple approche fondée sur la consultation en tant que formalité, il faut au contraire que ce soit une pratique démocratique fondamentale, un dialogue constant. Les peuples autochtones doivent en outre participer en tant que co-créateurs des politiques qui touchent leur vie, avec leur système de connaissances, leur structure de gouvernance, leurs pratiques culturelles qui doivent être pleinement respectées et intégrées. Des exemples fructueux de cette approche existent. La co-gestion des ressources naturelles, lorsque les peuples autochtones, entre termes, partagent la prise de décision avec l'autorité locale, ont donné lieu à de meilleurs résultats environnementaux et au renforcement de la résilience des communautés dans ces zones. Dans les pays où les traditions juridiques autochtones sont reconnues en parallèle du système juridique de l'État, on a assisté à des progrès en ce qui concerne le respect des droits des peuples autochtones conformément à leurs valeurs culturelles et à leurs traditions. La deuxième mesure et étape consiste à allouer les ressources nécessaires pour appuyer à la mise en œuvre des droits des peuples autochtones. Il faut, en d'autres termes, renforcer les capacités dans les institutions étatiques, mais dans les institutions des peuples autochtones également, afin de pouvoir faire respecter les droits reconnus au titre du droit international national. Cela veut dire également que les États doivent être tenus pour responsables lorsqu'ils ne s'acquittent pas de leurs obligations au titre de la Déclaration des Nations Unies, y compris dans le cadre de mécanismes apportant réparation. Il faut en outre assurer le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre des droits des peuples autochtones à l'échelle nationale et à la maille locale également. Cela doit faire intervenir les peuples autochtones eux-mêmes. Il faut des systèmes de rapports transparents, des examens impartiaux et indépendants. Tout cela peut jouer un rôle essentiel pour identifier les lacunes et donner lieu à une amélioration constante. Pour conclure, nous devons reconnaître que parvenir aux objectifs fixés par la Déclaration des Nations Unies n'est pas un fusil à un coup, ce doit être un engagement sur le long terme. Et alors que nous sommes confrontés à des défis mondiaux comme le changement climatique, les inégalités économiques, l'instabilité politique, nous devons continuer d'évoluer dans notre approche pour protéger et promouvoir les peuples autochtones. La mise en œuvre, ou le problème de la mise en œuvre n'est pas simplement un problème technique, c'est une question de justice, d'équité, de dignité humaine. Il faut, pour combler ce fossé, plus que des réformes politiques. Cela exige un changement paradigmatique fondamental dans l'interaction des États avec les peuples autochtones. En honorant les dispositions de l'article 38 de la Déclaration, nous pouvons œuvrer à un avenir où les droits des peuples autochtones soient pleinement réalisés, non